Chapitre 3, où la perquisition de Chantecoq donne des résultats plutôt inattendus. Minuit venait de sonner à la très belle pendule Empire qui décorait la cheminée de son studio, et Chantecoq, installé devant sa table, relisait encore avec beaucoup d'attention les feuillets sur lesquels, avec une infidélité exempte de toute défaillance, Météor avait repris la conversation qu'il avait eue dans l'après-midi avec la comtesse de Roxgranvel. Par instants, ainsi qu'il en avait l'habitude, il se prenait à murmurer les réflexions que lui inspirait le travail auquel il était en train de se livrer. Quand il était seul, il aimait à penser tout haut. Il lui semblait que les mots, en frappant les oreilles, stimulaient sa pensée et aiguisaient encore le double don d'observation et de déduction qui se complétait en lui d'une si heureuse manière. « Tout cela, grommelait-il, est clair comme de l'eau de roche, et ce bon, oh, c'est ma façon de parler, disons plutôt ce redoutable monsieur Ribécourt, homme du Nord, qui a certainement reçu un fâcheux coup de soleil dans le midi, est en train de se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais, pour le faire démordre, que Julien Guéret n'est pas l'assassin du comte Robert, et que Madame de Roxgranvel n'est ni sa maîtresse, ni la complice de ce dernier, il faut à tout prix, et dans le plus bref délai, découvrir le vrai coupable en marge de la police. Le premier point à élucider est de rechercher qui avait intérêt à la disparition de M. de Roxgranvel. Le mobile du crime ne saurait être l'argent, puisque le Décujus, ainsi que disent les notaires, avait constitué il y a un mois son épouse légitime légataire universelle et que celle-ci doit être mise hors de cause. Crime passionnel. La comtesse prétend que son mari l'adorait et lui était des plus fidèles. Ce qui est fort vraisemblable. Mais ben, ceci est à vérifier. Un homme est toujours un homme, et sans chercher à faire du tort au sexe auquel j'appartiens, je dois reconnaître qu'il est parfois arrivé à des amoureux très épris de donner en passant un coup de canif à leur contrat. L'occasion, l'herbe tendre. Certains philosophes et même physiologistes ne vont-ils pas jusqu'à prétendre que l'homme, qu'il ait cette soit oriental ou occidental, est un nez polygame. Mais ne nous emballons pas. En admettant que le comte Robert se soit laissé aller en un moment d'oubli, au cours d'une crise passagère, rapide et toute de fantaisie, à donner ce coup de canif, il n'a pas dû être bien grave. Il serait vraiment tout à fait extraordinaire qu'il eût eu pour lui des conséquences aussi effroyables. Je crois bien qu'on a pu dire avec raison que souvent les petites causes engendrent de grands effets. Mais pour qu'un geste aussi banal, aussi anodin, ait déterminé un drame aussi tragique et surtout aussi mystérieux, il faut qu'il ait été entouré de circonstances spéciales et d'une gravité exceptionnelle. Un amant jaloux, un mari trompé, comme mon vieux Chantecoq. Voilà un diagnostic singulièrement aventureux. Une vengeance. Mais d'après ce que m'a déclaré sa femme, M. de Roxgranvel était doué d'un caractère fort agréable. Il menait une existence facile, aisée, tout ouatée et d'un égoïste bonheur à deux. Il n'était même pas jaloux. Il ne devait donc pas avoir d'ennemis. Enfin, passons. Vol à main armée, crime crapuleux. Bon, je ne vois guère un bandit, si audacieux soit-il, se livrant à une pareille agression contre un homme qui ne pouvait avoir sur lui qu'une somme peu importante et qui devait être de taille à se défendre. D'ailleurs, n'est-il pas établi, par l'enquête judiciaire, que le revolver appartenait à la victime? Alors, suicide? Oui, mais pour quel motif? Roxgranvel était riche, aimé par une femme exquise qui ne pouvait qu'adorer. Et puis, S'il s'était tiré un coup de revolver en plein cœur, il eût été bien difficile et même impossible de jeter ensuite son arme dans un fourré et d'aller s'étendre sous les roues du train bleu. Sapristi! Mais je ne me trompais pas quand je prévoyais que j'allais me heurter à de sérieux obstacles, puisque dès le début je tombe sur le plus redoutable bec de gaz qu'un détective ait à redouter, c'est-à-dire un bec de gaz éteint, celui de l'obscurité. Il se tut et se replongea dans la lecture des feuillets. Au bout d'un certain temps, il reprit. Pourtant, tout cela s'enchaîne admirablement. Il est évident que cette femme est absolument sincère. Le fait de s'être adressée à moi suffirait à le démontrer surabondamment. N'ai-je pas, et c'est mon plus beau titre de gloire, la réputation solidement établie, d'avoir toujours dédaigneusement repoussé toute affaire malpropre ou simplement douteuse? Si elle n'avait pas été absolument sûre d'elle au temps de ce malheureux Guéret, prévenu d'avance que j'eusse vite fait le percer à jour la pauvre petite intrigue, elle serait certainement pas venue me trouver. Dans tout ce qu'elle m'a dit, contrairement à l'avis du juge d'instruction, je ne vois rien qui ne soit pas vraisemblable, très logique dans ses actes aussi bien que dans ses paroles. Au cours de ce récit, il n'y a qu'un passage qui m'a fait tiquer. C'est celui où elle raconte que son mari, bien que sachant que Guéret était éperdument épris d'elle, les a laissés sous un prétexte des plus futiles entrer seul à la villa des Mimosas. Je sais bien qu'elle me donne une et même deux explications d'une attitude qui, de prime abord, apparaît plutôt choquante. Caractère impulsif ou grandeur d'âme? L'un et l'autre me paraissent insuffisants. Il doit certainement y avoir un autre motif, mais lequel? Monsieur de Roscommel aurait-il voulu éprouver son ami ou sa femme? Ah, les deux, peut-être. Tout cela me semble bien compliqué, bien tiré par les cheveux. D'ailleurs, nous avons le temps de nous occuper de ce détail purement moral, qui n'est qu'un tout petit point de la grande énigme que nous avons à élucider. Mettons-le donc de côté, sans le négliger, sans l'oublier. Qui sait s'il n'a pas son importance? Mais, comme disait Gambetta, serrions les questions. La première, avons-nous dit, c'est de bien établir le mobile du crime. Cherchons. Tout en réfléchissant, Chantecoq se mit à ranger ses feuillets dans une chemise qui s'en fut serrée dans un lourd coffre-fort scellé à la muraille. Et, tout en se grattant le bout du nez, ce qui était chez lui le signe extérieur d'une grande perplexité intime, il se mit à marcher de long en large dans son vaste studio, les mains derrière le dos et l'œil obstinément fixé sur l'épaisse moquette qui alourdissait le bruit de ses pas. Et tout à coup, il s'arrêta. Une exclamation joyeuse lui échappa. Eureka! Comme disait le bon vieux savant grec Archimède, j'ai trouvé! Et le visage illuminé d'une véritable allégresse, tout en continuant sa promenade autour de son bureau, il se mit à monologuer. Mais parbleu, c'est cela! C'est évident, c'est même aveuglant de clarté. Le comte de Roscommel a été tué uniquement pour faire croire que c'était Julien Guéret qui l'avait assassiné. La lettre anonyme que j'ai reçue cet après-midi ne peut que me confirmer dans cette opinion que je suis bien prêt de considérer comme l'axiome qui doit servir de base à mon enquête. Et tout en se frottant les mains, le roi des détectives ajouta: Oh, je crois que maintenant ça va ronfler. Mais procédons par ordre et méthode, et commençons par cette perquisition à l'hôtel de la rue Harry Hine. Mon flair me dit qu'il n'y aurait rien d'étonnant à ce que j'y trouve face d'utiles découvertes. Ensuite, je m'occuperai de ce maître d'hôtel Marco et de cette femme de chambre Suzanne, qui doivent certainement en savoir long sur cette ténébreuse affaire, et dont j'ai chargé mon brave petit météore de rechercher l'adresse. Alors, il est minuit et demi, parfait. J'ai les clés. Il tâta une poche de son veston, puis il reprit. Oui, elles sont là. Alors, en route. Chantecoq, en pleine forme, gagna le fond de son studio, ouvrit une petite porte, tourna un commutateur et pénétra dans une pièce bien éclairée qui représentait un véritable laboratoire. Il se dirigea tout droit vers un grand placard dont les battants étaient peints en gris clair. Il les ouvrit en appuyant sur un ressort invisible. Les deux panneaux, en s'écartant, laissèrent apparaître, suspendus à des porte-manteaux, serrés les uns contre les autres, des vêtements et des uniformes, des frocs de toutes sortes. Le détective choisit un complet en velours noir à côtes, assez usagé, et un vieux chapeau mou de même nuance. Il déposa le tout sur une chaise et s'enfuit vers une commode, dont il tira à lui le premier tiroir qui était rempli de boîtes en carton qui portaient toutes une étiquette. Il en prit une et en retira une perruque aux cheveux courts et frisottants et une assez forte moustache de brosse. Puis il s'en fut placé ses postiches sur une table à maquillage, telle qu'on en voit dans les loges d'artistes et qui était munie de tous les accessoires nécessaires. Quittant ses vêtements, il s'entoura d'un large peignoir de bain et s'installant devant sa table, son visage bien éclairé par des lampes à réflecteurs placées de chaque côté d'une glace qui lui renvoyait son image, avec une dextérité et une sûreté de touche remarquables, à l'aide de tous les ingrédients pensés à portée de sa main, il modifia entièrement l'expression de sa figure et même les lignes de ses traits, au point qu'il fut promptement et complètement méconnaissable. Cela fait, il se coiffa de sa perruque et se colla la moustache sous le nez, et se débarrassant de son peignoir, endossa le complet en velours à côtes, enfouit dans sa poche de son pantalon un revolver et le trousseau de clés que lui avait remis la comtesse. En enfonçant son chapeau noir jusqu'aux oreilles, il revint dans son studio et vérifia son arme. Puis, dans le tiroir de sa table, il prit une lampe électrique et une boîte rectangulaire qu'il vit disparaître dans l'une des vastes poches de son veston, sortit, éteignit l'électricité, s'enfuit dans le vestibule, gagna le dehors, traversa le petit jardin qui s'étendait devant sa maison, ouvrit la porte grillée qui donnait sur l'allée de Verzy, la referma et se dirigea vers l'avenue des Ternes et s'arrêta devant une 10 chevaux, conduite intérieure à la carrosserie très simple qui stationnait devant le trottoir. Un chauffeur en tenait le volant. C'était Gaufret, que nous avons vu précédemment remplir auprès du limier les fonctions de valet de chambre. Chantecoq monta dans la voiture. Le chauffeur avait dû certainement recevoir de son maître des instructions très précises, car il mit l'auto en route sans que celui-ci lui lançât la moindre adresse et ne stoppa qu'à l'entrée de l'avenue Mozart, où le détective descendit toujours silencieusement. Il s'éloigna, tandis que Gaufret, fidèle à la consigne, muet et vigilant à la fois, se préparait à une attente dont il était impossible de prévoir la durée. Les mains dans les poches, sans hâte, la démarche chaloupante, Chantecoq gagna la rue Henri-Klein, qui était tout à fait déserte. Il s'arrêta devant le numéro 57, c'est-à-dire l'hôtel particulier du comte et de la comtesse de Roscovel. La maison était de construction très moderne. Du dehors, il était très malaisé d'en deviner la distribution intérieure, tant la façade irrégulièrement percée de baies de fenêtres de dimensions diverses et inusitées, contrariées d'avancements briques ou anguleux, présentaient un aspect déconcertant, déroutant entre tous. Shuttlecock se dit « Drôle d'écrin pour une perle !» Et comme il est fait, peu fait pour cette aide de lumière et de charme que la comtesse Marie-Thérèse. Ah, snobisme, snobisme, que de crimes commettons en ton nom. Mais notre héros n'avait pas l'habitude, lorsque, suivant son expression, il était entré en action, de s'attarder à des considérations artistico-philosophiques. Il n'était pas là pour critiquer l'architecte de cet immeuble, mais pour pénétrer dans cette bizarre demeure et pour s'y livrer à une perquisition au cours de laquelle il comptait bien glaner quelques renseignements dignes d'intérêt. Il regarda autour de lui, attendit que deux pas sans attarder en un cordial colloque qui démontrait qu'ils avaient dû passer une soirée humide, se décida à continuer bras dessus, leur balade nocturne et incohérente, et, s'emparant du trousseau de clés, il s'en fut droit à la porte d'entrée qu'il voulut ouvrir. Mais elle lui opposa une telle résistance que Shuttlecock en conclut fort judicieusement qu'elle devait être fermée à l'intérieur par une chaîne ou une barre de fer, et, n'insistant pas, il chercha une porte de service qui découvrit tout près de la baie au volet métallique qui devait servir de fermeture à un garage. Après avoir choisi dans le trousseau la clé qui semblait le mieux convenir à l'usage qu'il voulait en faire, il l'introduisit dans la serrure qu'il fit jouer. Cette fois, la porte s'ouvrit sans la moindre difficulté et Shuttlecock pénétra librement dans un couloir étroit et obscur. Refermant aussitôt la porte derrière lui, il arma sa lampe électrique et examina les alentours. À droite, le mur était entièrement lisse. À gauche, deux portes. L'une devait donner accès au garage, l'autre à la cuisine. Tout le rez-de-chaussée devait être exclusivement consacré au service. Au fond, s'amorçait un escalier. Le détective s'y engagea et, après avoir escaladé une vingtaine de marches, il se trouva dans un autre couloir en longueur qui devait desservir tout le premier étage. Il poussa la première porte qui se trouva devant lui. Elle donnait dans un office aux multiples placards et qui se présentait pour lui aucun intérêt. De là, il passa dans la salle à manger, ou tout au moins dans la pièce qui devait en tenir lieu, car sa disposition, sa décoration et son ameublement étaient d'une originalité tellement agressive qu'il était impossible au premier abord, et même au second, d'en définir la destination exacte. Shuttlecock ne s'y attarda pas. Une large baie, terminée par une tenture sombre, attira son attention. Il écarta le rideau et aperçut devant lui une sorte de hall dont le plafond très élevé se terminait par une verrière surplombant les arêtes vives de piliers métalliques qui eussent été beaucoup mieux à leur place dans une usine métallurgique ou dans une gare de chemin de fer. De chaque côté du hall, encombré de divans, de sièges bas et de meubles de plus en plus bizarres, Shuttlecock, en promenant autour de lui le rayonnement de sa lampe électrique, aperçut deux sortes de retraits plus intimes, dans lesquels il ne jugea pas utile de s'aventurer, car il était sûr de se rien découvrir dans ses appartements dit de réception. S'engageant dans un escalier imitant la pierre et qui, partant du hall, aboutissait à une galerie desservant le premier étage, le détective atteignit les appartements intimes où il espérait faire une meilleure moisson. Il se composait d'une très belle chambre à coucher beaucoup moins excentrique, d'un vaste et luxueux cabinet de toilette qui communiquait avec une salle de bain, d'un cabinet de travail pour le comte et d'un boudoir pour la comtesse. Le boudoir, de style moderne, mais exempt de cette outrance qui semblait un défi au goût aussi bien qu'au sens commun, formait un coin délicieux, très féminin, et que sans aucun doute Marie-Thérèse avait voulu ainsi. Sur un très joli bureau, secrétaire en marqueterie, il y avait une photo, celle du comte Robert. Jean de Kock s'en empara et l'examina avec attention. Très beau garçon, apprécia-t-il. Très rassé, oh, figure sympathique. Les yeux un peu trop fixes, avec tendance à exagérer la française. She's. Épaules d'athlète. Muscles développés, sans doute au détriment du cerveau. Sourire agréable, mais ne parvenant pas à dissimuler entièrement une certaine ironie naturelle. Lèvres voluptueuses, beaucoup plus d'un sensuel que d'un amoureux. Front plutôt énigmatique. Un mur derrière lequel il doit certainement se passer quelque chose, qui contraste singulièrement avec la netteté des yeux et qui tendrait à démontrer que ce pauvre garçon était beaucoup moins impulsif que ne le croit sa veuve. Constatation évidente, intéressante, mais qui n'est pas forcément faite pour amplifier les choses déjà si embrouillées. Bon, continuons notre visite. Le détective s'enfuit dans le cabinet de travail du comte. Là, le modernisme exacerbé avait repris le dessus. Chantecoq nota au passage. Snob, oh, très snob même. Alors, quelques vices cachés, morphine, coco, héroïne. Pourtant, le portrait que je viens de voir et qui est de date récente est celui d'un homme sain et vigoureux, beaucoup plus épris de sport qu'avide de sensations. D'ailleurs, si M. de Roscarvel s'était adonné au toxique, sa femme s'en serait aperçue et me l'aurait dit. Bon, voyons toujours. Il s'approcha d'une sorte de bureau sur lequel il y avait un buvard qui portait quelques traces d'écriture séchée. Chantecoq enleva la feuille et la glissa dans une des poches de son veston. Puis il promena très vite la lueur de la lampe sur les murs qui recouvraient une tenture d'un rouge sombre, sur laquelle se détachaient à intervalles réguliers et comme s'ils avaient été semés là au hasard, de petites chimères tassées, tissées en fil d'or, qui paraissaient se poursuivre sans pouvoir jamais s'entendre. Une exclamation de surprise échappa au détective, qui pourtant n'avait ni l'émotion ni l'étonnement facile. Il fallait vraiment que sa curiosité fut tout à coup singulièrement excitée pour qu'il se livrât ainsi à une telle manifestation extérieure. Chantecoq, en effet, en examinant cette tenture, venait de se rappeler tout à coup un de ses plus récentes aventures que nous allons résumer en quelques lignes. Quelques semaines auparavant, il avait reçu la visite d'une Italienne, la princesse Germina Rossellini, sur qui lui avait raconté que la nuit précédente, ses bijoux avaient disparu d'une cachette qu'elle seule connaissait. Sur sa demande, Chantecoq s'était rendu chez elle. La princesse avait fait pénétrer dans son boudoir, dont les murs étaient recouverts de la même tenture en velours rouge, parsemée de chimères d'or. Appuyant sur l'une d'elles, Chantecoq se souvenait parfaitement de sa position, la princesse faisant fonctionner le mécanisme serré et secret, grâce auquel une partie de la tenture fixée sur des charnières invisibles Et c'est à paraître une excavation d'où les bijoux avaient été enlevés. Ah, ça, se disait le détective, est-ce que par hasard il y aurait également une cachette dans ce mur? Il voulut tout de suite s'en assurer et chercha la chimère qui correspondait le mieux à celle qu'il avait repérée chez la princesse Rasolini. Il appuya le doigt ainsi que l'avait fait l'italienne. Rien ne se produisit. Mais Chanteclerc n'était pas homme à se décourager pour si peu. Doué d'une obstination et d'une persévérance inlassables, il décida immédiatement de renouveler son expérience sur toutes les autres chimères. À la cinquième tentative, une partie de la muraille se rabattait sur lui, démasquant une excavation absolument identique à celle que lui avait révélée la princesse Germaina. Il y projeta les rayons de sa lampe et aperçut, dans la cachette, un portefeuille assez volumineux dont il s'empara. Le portefeuille, très gonflé, était fermé par une serrure en acier qui devait offrir une certaine résistance. Aucune clé du trousseau ne semblait y correspondre. « Mais je serais curieux de savoir ce qu'il contient !» se disait le détective. D'un geste machinal, il voulut éprouver la solidité de la serrure qui s'ouvrit sous sa première pression. Chantecoq introduisit sa main à l'intérieur de l'enveloppe en cuir qui était divisée en trois compartiments, et il constata que ceux-ci ne renfermaient que des vieux journaux de sport dénués de toute espèce d'intérêt. « Il y a peut-être un double fond !» se disait-il. Il chercha et ne trouva rien. « Oh, de plus en plus bizarre !» pensa-t-il. « Pour que l'on ait enfermé ce portefeuille dans une cachette aussi bien dissimulée, il fallait qu'il contînt des valeurs ou des documents autrement sérieux que ces collections de l'écho des sports, de l'auto et du tennis revu. Mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est la ressemblance intégrale de ce coffre secret avec celui de la princesse Rasolini. Oh, il se peut, après tout, qu'elle ait été en relation avec les Roscarvel et qu'elle ait conseillé à ceux-ci de faire pratiquer chez eux un coffret invisible semblable au mien. » Et tout en replaçant le portefeuille à l'endroit où il l'avait pris, le détective se dit « Oh, mon petit Chantecoq, voilà une explication qui n'est pas digne de toi. Elle est trop sommaire, trop facile. Écoute plutôt ton flair, qui en ce moment, tout en te faisant renifler un parfum de mystère toujours agréable pour un limier tel que toi, n'est pas sans y reconnaître, savamment mélangé, certains miasmes empoisonnés qui l'engagent à te tenir sur tes gardes. » Ces réflexions intimes amenaient le roi des détectives à se remémorer son aventure avec la noble italienne qui, dès le lendemain, lui avait téléphoné que grâce à une restitution anonyme, elle était rentrée en possession des bijoux. Il évoquait la silhouette si impérieusement belle et superbement dominatrice de celle que ses admirateurs n'appelaient que la belle Imperia. Mais quelle était au juste cette femme? La brusque façon dont s'étaient terminées ses si brèves relations avec elle n'avait pas permis à Chantecoq de se documenter sur elle. Il n'en savait que ce que racontait la chronique. Or, la chronique, généralement assez indulgente et même si malveillante envers tout ce qui représente la fortune, la jeunesse et la beauté, était unanime à célébrer non seulement les agréments physiques de la belle Florentine, mais encore à vanter ses qualités morales, dont le riche faisceau s'entourait de la plus solide vertu. En prenant ainsi au-dessus de tout soupçon la princesse Rasolini, avait le plus grand mérite. Marié très jeune à l'un des plus opulents gentilshommes de Milan, qu'il avait promptement remercié du don vraiment royal qu'elle lui avait fait de sa personne, en la trompant avec toutes les plus jolies danseuses de la Scala et de l'Internationale, descendante d'une des plus illustres familles de Florence, ayant dans le sang cet orgueil traditionnel qui lui permettait de s'élever au-dessus de toutes les misères humaines, elle n'opposa qu'un méprisant dédain à l'abandon stupide dont elle était l'objet, et le prince Ascolini, sans encourir de la part de sa femme le plus léger reproche, put se livrer à toutes les plus imbéciles orgies. Mais une nuit à Venise, le demi-fou qu'il était déjà, perdant toute retenue, eut l'inconscience, au cours d'un souper où il avait bu outre mesure, d'attaquer gravement non pas la politique de Mussolini, mais sa personnalité intime. De nos jours, comme de tout temps, dans cette ville que l'on a surnommée si justement la perle de l'Adriatique, et qui est à coup sûr l'un des plus beaux joyaux du monde, les palais, les gondoles et même les canaux ont toujours eu des oreilles qui n'étaient pas seulement celles de l'amour, toujours avides de surprendre les propos des amants énamourés, mais aussi celles, beaucoup moins finement ourlées, d'une police sans cesse aux aguets pour le plus grand profit de ceux qui l'inspirent et la subventionnent. Le lendemain, les propos idiots d'ailleurs, tenus par le prince Rascolini, étaient répétés au Duce, et loin d'en sourire, le Duce se fâcha pour tout de bon. Sans tergiverser, en chef qui entend se faire respecter tout autant et même plus par les grands que par les humbles, il fit savoir à son plus ou moins confident, insulteur, qu'il avait 48 heures pour franchir la frontière, et que s'il s'y refusait, c'était son arrestation immédiate. Luigi Rascolini, dont la bravoure était aussi limitée que son tact et son intelligence, obtempéra sans regimber. La belle Imperia, bien qu'elle adorât son pays, le suivit en exil, sans élever la moindre objection. Ils se fixèrent à Paris où, grâce à leur fortune considérable, ils purent mener un train d'existence digne de leur rang. Naturellement, le prince continua ses frasques, et comme il avait une prédilection marquée pour la danse, ou plutôt les danseuses, on ne vit bientôt plus que lui au foyer de l'opéra ou dans les coulisses de nos plus fameux music-halls, jusqu'au jour où un fâcheux et terrible accident automobile interrompit ses chorégraphiques exploits. Parti une nuit pour Deauville avec une de ses conquêtes dans une auto de course qu'il avait la folie de piloter lui-même, on les ramassait tous les deux parmi les débris de l'auto au bas de la côte de Saint-Germain, dont l'imprudent chauffeur, qui marchait à 100 à l'heure, avait magistralement raté le virage. La femme était morte. Oh, lui ne vaguait guère mieux. On dut le trépaner. Il en revint, mais pour demeurer plongé dans cet état lamentable pour un homme de 30 ans, qu'on appelle communément le gâtisme. Épouse admirable, la princesse Germina, renonçant solennellement au monde, à ses pompes et à ses œuvres, se transforma en infirmière, passant la moitié de son temps auprès de son mari, l'escortant, lorsqu'un domestique le poussait dans une petite voiture, à travers le jardin du magnifique hôtel que Rascolini avait acheté, chaussée de la Muette, quelques jours avant son accident. Elle se vengeait ainsi en héroïne, en grande chrétienne, des injures dont ce mufle de vaincu l'avait accablé pendant les 5 premières années de leur mariage. Voilà tout ce que Chantecoq savait de la belle Imperia. Pour l'instant, se disait-il, reléguons cette superbe marionnette au magasin des accessoires et continuons notre perquisition. Car j'ai le sentiment qu'elle me ménage encore d'autres surprises. Chantecoq ne se trompait pas, mais celle dont il allait être l'objet dépassait, et de beaucoup, ce qu'il s'attendait à trouver ou à voir. En effet, quelle ne fut pas sa stupéfaction, en repoussant dans le boudoir de la comtesse, de constater qu'un plafonnier électrique répandait dans la pièce une vive clarté. Pourtant, il était bien sûr de n'avoir fait fonctionner aucun commutateur. Or, ces lampes n'avaient pas pu s'allumer toutes seules. Alors, Chantecoq saisit son revolver et écouta. Aucun bruit ne troublait le silence environnant. Et comme il regardait autour de lui, le détective aperçut, appuyé contre la photo du contrebert, une enveloppe sur laquelle il y avait une adresse. Il approcha à pas de loup et lut ces mots, tracés d'une écriture contournée et visiblement contrefaite. À Monsieur Chantecoq, urgente et personnelle. Le limier s'empara de l'étrange missive, mais avant d'en prendre connaissance, il s'enfuit à pas de loup jusqu'à la porte qui donnait dans la chambre de la comtesse, et brusquement, revolver au poing, il l'ouvrit toute grande. La chambre était plongée dans l'obscurité la plus complète. Aucun bruit ne se faisant entendre, Chantecoq rentra reculant dans le boudoir, referma la porte, dont par précaution et pour éviter toute attaque brusque, il poussa le verrou. Alors, replaçant son revolver dans sa poche, mais tout prêt à le ressaisir et en user en cas de subit danger, il déchira l'enveloppe et lut ce qui suit. « Monsieur Chantecoq, malgré l'avis qui vous a été donné ce matin par un des amis de l'infortuné comte de Roscanvel, qui se double d'un de vos plus sincères admirateurs, vous avez donné suite à la démarche qu'a tentée près de vous une misérable femme justement soupçonnée d'avoir trempé dans l'assassinat de son mari et dont l'arrestation n'est plus qu'une question d'heure. Pour cette fois, je consens à vous pardonner, mais sachez-le bien, ce sera la première et la dernière. Je n'hésite pas à vous le déclarer, et vous persistez, si vous persistez à vous occuper d'une affaire qui ne vous regarde pas et à entraver l'œuvre de la justice, je ne réponds pas de votre existence. Ne croyez pas que je bluffe le moindrement. La meilleure preuve, c'est que tout à l'heure, il y a à peine quelques minutes, je vous tenais sous le feu d'un certain pistolet avec lequel je ne vous engage pas à faire connaissance. Vous êtes, monsieur Chantecoq, un très remarquable policier, et je reconnais volontiers que vous n'avez rien usurpé le titre de roi des détectives qui vous a été décerné par l'opinion publique. Je n'ai nullement envie d'entrer en guerre avec vous. Vous ne m'inspirez aucune haine, loin de là. Je tiens à vous le répéter, je n'ai pour vous qu'admiration et estime. Mais j'entends avant tout que la mort du contrebert soit vengée et que ces assassins subissent le châtiment qu'ils ont mérité. Ne transformez donc pas en ennemi implacable quelqu'un qui n'est animé envers vous que d'excellentes intentions. Je viens de vous donner déjà un échantillon de mon savoir-faire. Ne me contraignez pas à continuer. Cette fois, sachez-le bien, vous n'avez pas affaire à un de ces criminels qui, si habiles, si retors et si malicieux soient-ils, finissent toujours par présenter à votre œil exercé le défaut de la cuirasse, mais à un personnage invisible qui vous suit, vous observe, attentif à la moindre de vos démarches, et ne vous manquera pas si vous lui en fournissez l'occasion. Adieu. N'est-ce pas, cher monsieur Shancock? Cela vaut mieux pour vous que de me forcer à vous dire au revoir. Le message ne portait aucune signature. Tranquillement, Shancock l'envoya rejoindre dans sa poche, avec la photographie de Robert, le buvard qu'il avait déjà serré, puis, une main sur la crosse de son revolver, il s'enfuit de la porte dont il poussa le verrou, éteignit le plafonnier et, armé de sa lampe électrique, passa dans la chambre de la comtesse. S'avançant avec précaution, il regagna l'antichambre qui aboutissait à la galerie, descendit l'escalier de pierre, traversa le hall, la salle à manger, l'office, prit l'escalier de service, longea le couloir, ouvrit la porte, la referma à clé et se trouva dans la rue. Quelques minutes après, il roulait dans son auto qui le ramena chez lui. Les événements mystérieux qu'il venait de vivre n'avaient en rien troublé sa sérénité. Jamais il n'avait paru plus calme, plus maître de lui, plus conscient de sa force. Un léger sourire de satisfaction errait sur ses lèvres, auquel leur fin contour donnait une expression spirituelle, s'harmonisant merveilleusement avec son regard qui n'avait jamais été plus vif, mieux éveillé. En ce moment, Shancock donnait l'impression exacte d'un homme qui s'est beaucoup amusé et compte se distraire encore davantage. « Ça se corse, » murmura-t-il entre ses dents. « Ça se corse même d'une façon tout à fait imprévue. Alors, tant mieux. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et si mon anonyme correspondant, si redoutable soit-il, et il l'est, dans aucun doute, se figure qu'il va m'intimider, il se trompe. Maintenant, j'en suis sûr, j'en ai la conviction absolue. C'est lui qui a tué, et j'irai lâcher une telle proie. Le gredin prétend me connaître. Quelle plaisanterie! En tout cas, je vais lui prouver avant peu que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ce n'est pas l'adieu qu'il escomptait, que je lui renvoie, mais un expressif au revoir, accompagné d'un énergique à bientôt. Gaufret, impassible, laissait monologuer son patron. Le fidèle serviteur en avait vu et entendu bien d'autres. On sentait qu'il était de ceux qui ne s'en font pas. Non point parce qu'il était doué de cette philosophie rudimentaire, communément appelée égoïsme, mais parce qu'il avait en son maître une confiance que seul pouvait égaler son affection et son dévouement. En arrivant à l'entrée de la vallée de l'allée de Verzy, Gaufret stoppa et demanda d'un détective « Patron, quels sont les ordres pour demain ?» Shancock fit. Quelle heure est-il ? 3 heures, répliqua le chauffeur en consultant la pendulette de la voiture. Oh, je l'ai fait veiller, mon pauvre vieux. Je peux pourtant pas demander de m'apporter mon chocolat à 7 heures du matin. Mais pourquoi pas, patron ? Pendant que vous étiez occupé, j'ai dormi dans l'auto. Et puis, on est tout de même un peu là. 4 heures de sommeil, c'est pas assez, déclarait ce dernier, d'autant plus que nous allons avoir besoin de toutes nos forces. Et il conclut, bon, apporte-moi mon chocolat à 9 heures. Entendu, patron. Allons, bon quart de nuit, mon brave. Bon quart, patron. Et tandis que Gaudret allait remiser sa 10 chevaux dans un garage voisin, Shancock rentrait chez lui, après avoir déposé dans son coffre-fort le papier buvard et la lettre qu'il rapportait de son expédition nocturne. Il s'en fut quitter sa défroque dans son laboratoire, et revêtu d'une confortable pyjama, il regagna sa chambre qui était située au premier étage de la villa, passa dans son cabinet de toilette où se prépara un beau bain tiède qu'il termina par une douche en pluie fine et après s'être frictionné à l'eau de Cologne avec un gant de crin, il se coucha. 5 minutes après, cet homme, ou plutôt ce surhomme, dormait d'un sommeil d'enfant. L'assassin du comte de Roscarvel n'avait qu'à bien se tenir. Le roi des détectives était lancé sur sa piste.